CQFD.
Oui, nous allons faire effectivement un gros plan sur l'orgasme tantrique. L'orgasme tantrique considéré comme une des formes justement d'orgasme, Bastien Confineau.
Oui, alors il y a toutes sortes d'orgasmes. On peut parler d'orgasme vaginal, clitoridien, anal, etc. L'orgasme tantrique, lui, possède une particularité. Les parties génitales ne sont pas forcément stimulées. Alors, ça peut paraître assez surprenant, mais j'ai pu lire plusieurs témoignages de personnes qui prétendent en effet atteindre un orgasme sans que les organes génitaux ne soient mis à contribution. Est-ce que c'est vraiment possible? Et si oui, quels sont les mécanismes physiologiques qui permettent d'aboutir à cet orgasme? C'est donc la question que je vous propose qu'on explore aujourd'hui. Mais pour aboutir à une réponse, c'est un long cheminement. Et ça commence par une définition de ce qu'est l'orgasme. Au féminin d'abord, par Francesco Bianchi De Micheli, médecin adjoint au département de gynécologie obstétrique, spécialiste en sexologie et médecine sexuelle aux hôpitaux universitaires de Genève.
C'est défini comme un pic transitoire de plaisir très intense, dont l'intensité est très variable, qui s'accompagne, chose très importante, d'une altération de l'état de conscience, plus des contractions musculaires non contrôlables, donc non volontaires, dans le périnée, parfois accompagnées aussi des contractions de l'utérus et de l'anus, pas toujours, et auquel suit un contexte, un moment d'intense relaxation et bien-être. Ainsi ça devrait être. L'orgasme masculin, au niveau du phénomène, c'est le même que chez la femme. Mais il s'ajoute une éjaculation qui est constante, sauf trouble spécifique. Chez la femme, généralement, l'éjaculation est moins visible, voire dans certains cas très visible et très présente.
Mais là, vous allez surprendre un certain nombre, l'éjaculation chez la femme.
Ah oui, ça existe.
C'est quoi?
Ah, il y a un certain nombre de femmes qui ont une éjaculation.
Donc un liquide qui sort.
Un liquide qui sort, qui est un liquide spécifique. Une fois, dans la première description, on pensait que ce liquide était de l'urine, mais en fait, si on analyse chimiquement ce liquide, il contient des substances comme la phosphatase prostatique, qu'on trouve uniquement dans certains fluides issus de la prostate. Donc c'est qu'on sait aujourd'hui que certaines femmes ont des vestiges embryonnaires de la prostate plus ou moins organisés, et dans certains contextes d'excitation peuvent éjaculer. De manière très importante parfois. Il y a des femmes qui arrivent même à se contrôler beaucoup, à décider quand elles éjaculent et quand, même combien.
Ces femmes qui éjaculent, c'est ce qu'on appelle les femmes fontaines, Bastien ?
Alors, oui, quand la quantité de liquide est très importante, jusqu'à 1 décilitre. Mais ça, ce sont des cas relativement rares. Plus communément, et d'après certaines études, 75% des femmes expulsent en effet un liquide au moment de l'orgasme, sauf que la quantité est trop faible pour que vraiment on s'en rende compte.
Alors là, Francesco Bianchi et De Micheli nous a décrit les signes plutôt extérieurs de l'orgasme. Est-ce qu'on sait ce qui se passe à l'intérieur de notre corps?
Plus ou moins, tout n'est pas compris, mais quoi qu'il en soit, il y a un organe particulièrement impliqué dans l'orgasme, c'est le cerveau. Francesco Bianchi et De Micheli.
On le dit souvent, mais est-ce qu'on le comprend vraiment? Le cerveau, c'est d'abord l'organe sexuel par excellence. C'est le cerveau qui coordonne la réponse orgasmique et la réponse excitatoire, donc la réponse sexuelle en général. Et c'est le cerveau qui ressent si les sensations sont de plaisir ou pas. Et c'est le cerveau qui coordonne, c'est le directeur d'orchestre de la réponse sexuelle. Dit ceci, une personne qui est soumise à un certain nombre de stimuli érotiques pertinents pour elle, ça dépend de la personne ou du stimulus en question, si les stimule de manière adéquate, va avoir une réponse d'excitation qui est progressive avec une intensité qui augmente. Cette intensité qui augmente peut, n'est pas nécessaire, aller jusqu'à un point dans lequel l'orgasme se déclenche. L'orgasme étant le point summum de l'excitation.
Prenons un homme, on imagine une stimulation du pénis. Oui. Donc là, il y a des terminations nerveuses qui renvoient un influx nerveux vers le cerveau. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand le cerveau reçoit cet influx nerveux?
Je suis content que vous allez dans le cerveau. Il est important de faire le parcours pour comprendre. Donc, les stimulus, par exemple dans le pénis, mais là j'insiste à dire que le pénis est un exemple. Il y a plein d'autres zones qui peuvent être érotisées ou érotisables. Il suit les réseaux nerveux, le rang de la moelle, il y a des centres spécifiques, etc. Et monte dans le cerveau, et là, il va être considéré comme étant érotique ou pas. C'est là l'interprétation du stimulus qui se fait.
Et c'est pour ça que d'autres zones peuvent aussi être des stimuli sexuels.
Exactement. Et à ce moment-là, si le stimulus est considéré par le cerveau comme étant adéquat, il va déclencher l'activation d'un réseau spécifique, qui est le réseau de la réponse sexuelle, auquel appartient le réseau de l'orgasme, qui est un réseau fonctionnel qui s'active dans certaines conditions.
Sauf qu'il faut que cette stimulation s'exerce sur une certaine durée. Une seule stimulation, évidemment, ne va pas suffire.
Oui, en effet, il faut qu'il y ait une sorte d'accumulation, en fait, de stimuli. Par contre, pas forcément besoin de beaucoup. Là, ça va dépendre des espèces. Serge Wünsch, docteur en neurosciences comportementales.
Si on observe des animaux qui sont très proches de l'être humain, comme les hominidés, donc, c'est-à-dire les grands singes, eh bien, on observe que la durée de l'intromission, en moyenne, donc la durée à la fois de la pénétration du pénis et des mouvements du pénis, ça va être à peu près une dizaine de secondes. 8 secondes en moyenne pour les chimpanzés et une quinzaine de secondes pour les bonobos. Et là, c'est tout à fait fonctionnel. Parce que chez les mammifères, il ne faut pas perdre de vue que le but de la copulation, c'est de déposer le sperme dans le vagin. Donc, d'une part, c'est inutile d'être trop long, hein, inutile que ça dure une demi-heure. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus que la stimulation soit trop courte. Parce que sinon, le risque, c'est que l'éjaculation risque de se produire avant que le pénis n'ait pénétré dans le vagin. Et donc là, le sperme va être perdu. Hein, c'est ce qu'on appelle l'éjaculation prématurée. Donc c'est uniquement un problème purement fonctionnel.
Je comprends bien, donc il y a un compromis finalement qui a été trouvé entre ni trop long ni trop court. Mais ça ne nous dit pas pourquoi l'accumulation de stimulation provoque l'orgasme.
Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il faut un recrutement successif d'un ensemble de neurones pour déclencher l'éjaculation. Donc chaque stimulation, chaque mouvement de va-et-vient, c'est quelque chose qui va augmenter le niveau d'excitation sexuelle jusqu'à ce qu'on arrive à un palier qui va déclencher ensuite l'éjaculation. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ce mécanisme il fonctionne de cette manière-là? Ça, on ne sait pas. On sait qu'il fonctionne comme ça.
Alors par contre, Francesco Bianchi de Micheli nous met en garde sur le fait que ce mécanisme qui mène à l'orgasme n'est pas un simple mécanisme réflexe.
Non, c'est un phénomène complexe où une partie réflexe effectivement existe, mais c'est une partie. Il y a une partie beaucoup plus complexe dans ce phénomène qui est mise en fonction et qui nécessite un certain temps, qui nécessite une certaine analyse, une série d'opérations neuronales doit se faire, qui active des aires motrices et sensorielles, bien sûr, mais qui active aussi des aires émotionnelles. Et encore, ce qui est plus intéressant, active des aires cognitives, qui sont des aires impliquées dans les fonctions supérieures. Par exemple, la mémoire, par exemple, la représentation de soi, par exemple, la cognition sociale. Par exemple, le langage, ça veut dire tout simplement que l'orgasme, c'est un phénomène cognitif aussi et qui a des fonctions qui nous dépassent. Et aussi que ces phénomènes cognitifs sont très importants pour que l'orgasme puisse survenir. Mais ce qu'on ne sait pas, que certaines stimulations autres, comme l'empathie, où la capacité à ressentir ce que l'autre ressent sont impliquées aussi dans l'orgasme. Là, on parle de la théorie de l'esprit, on parle de l'empathie, donc des aires qui sont impliquées dans ça. Donc, quelque part, quand quelqu'un a un orgasme, en même temps, est en train d'élaborer un certain nombre d'informations et a mis en œuvre certains processus qui sont aussi de l'ordre de comprendre l'autre. Et cet autre-là, son excitation, sa manifestation du plaisir joue un rôle dans la réponse orgasmique de l'individu.
CQFD autour de l'orgasme. Aujourd'hui, on l'a bien compris, le cerveau et même une bonne partie du cerveau est mise à contribution pendant un orgasme. Très bien, mais ça part quand même des zones érogènes, Bastien Confino.
Ouais, alors c'est bien, vous dites bien zone érogène et pas zone génitale. Ça, c'est important. Ça montre, et c'est la question qui nous intéresse ici, qu'on peut avoir un orgasme sans mettre à contribution les zones génitales. Alors, on va définir précisément ce que sont ces zones érogènes avec Serge Wünsch, docteur en neurosciences comportementales.
Alors, les zones érogènes primaires, donc comme le pénis et le clitoris, ce sont des zones qui sont spécifiquement prévues et organisées au niveau biologique pour déclencher les réflexes sexuels. Donc, par exemple, la lubrification vaginale chez la femelle et l'érection chez le mâle. Les zones érogènes secondaires, ce sont des zones soit qui sont juste à proximité ou alors au contact du pénis et du clitoris, soit alors ce sont des zones qui peuvent devenir érogènes. On ne connaît pas en détail toutes les caractéristiques, mais ce qu'on observe, c'est que les zones qui peuvent devenir potentiellement érogènes, elles doivent avoir une organisation quand même biologique qui est spécifique. Alors déjà, il faut que la peau elle soit plus fine que la peau d'autres régions du corps, de telle sorte que les récepteurs sensoriels ils vont être beaucoup plus proches de la surface de la peau et donc les stimulations vont provoquer des sensations plus importantes. Ensuite, ce qu'on observe, c'est que ces zones potentiellement érogènes, il faut qu'elles soient densément innervées. Et en plus, il faut que lorsqu'elles sont stimulées, elles provoquent une très forte activation du cerveau. Donc, il y a un ensemble de caractéristiques neurobiologiques qui sont absolument obligatoires pour qu'une zone puisse devenir érogène. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les zones érogènes secondaires. Quant aux zones donc, qui ne sont pas érogènes, eh bien ça, ce sont des zones qui n'ont pas de relation spécifique, qui n'ont pas de connexion spécifique, ni avec les structures sexuelles, comme le pénis et le clitoris, ni avec le système de récompense. Expérimentalement, ce qu'on observe, c'est que ce sont surtout les zones érogènes primaires, donc le pénis et le clitoris, qui peuvent déclencher un orgasme. Ensuite, ce qu'on observe, c'est que ce sont les régions, soit qui ont une relation directe avec les zones érogènes primaires, hein, comme c'est le cas du vagin. Le vagin, il est en contact direct avec le clitoris. Donc la stimulation du vagin entraîne forcément une stimulation du clitoris. Ou alors, ce sont des régions qui partagent les mêmes voies nerveuses. Alors c'est le cas par exemple de l'anus, hein, puisqu'il va y avoir une voie commune au niveau nerveux. Mais pour l'anus, il faut en plus qu'il y ait des stimulations sexuelles régulières hein, pour que ça développe la capacité érogène de la zone anale.
Régulière, c'est-à-dire régulière pas toutes les secondes, c'est régulière dans le temps sur des mois, des années.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la personne elle ait régulièrement des activités anales.
Alors si je résume Serge Wünsch, une zone pour qu'elle soit considérée comme érogène doit être une zone où la peau est fine, une zone très bien innervée, une zone qui permet une forte activation du cerveau. Du coup, je me dis que toutes les parties de mon corps vont pas pouvoir être érogènes.
Alors oui, ça c'est vrai, mais nous avons tout de même beaucoup de zones potentiellement érogène, beaucoup plus qu'on ne le soupçonne d'ailleurs. Francesco Bianchi de Micheli, je rappelle qu'il est médecin adjoint au département de gynécologie obstétrique, spécialiste en sexologie et médecine sexuelle aux hôpitaux universitaires de Genève. Et on va commencer par rapport à ces zones érogènes par prendre l'exemple de la femme.
On a décrit chez la femme au moins une dizaine de types d'orgasmes. Alors moi, je trouve toujours amusant quand quelqu'un me dit « voilà, je n'ai pas l'orgasme vaginal » ou telle personne se dit souffrante, manque par exemple d'orgasme vaginal et on oublie tous les autres. Mais alors, si,
quels sont les autres?
Mais il y en a plusieurs. Il y a des femmes, mais pas tout le monde. Hein. Chez certaines femmes, l'unique action d'embrasser, donc de la langue, de la bouche, des lèvres, peut évoquer, éveiller, provoquer un orgasme vrai. La stimulation
de la poitrine,
de la pointe des seins, typiquement, chez certaines femmes, peut provoquer un orgasme en soi. Chez l'homme aussi, par ailleurs. La stimulation du pénis, des testicules, les zones anales, le point de la prostate. Et ensuite, n'oublions pas qu'un certain nombre de femmes sont sensibles dans des zones non considérées comme érogènes pour d'autres, ou dans la croyance populaire, si je peux dire comme ça, mais qui le sont pour elles. Par exemple, le cou, les oreilles, et encore.
Ça peut provoquer un orgasme, ah oui. Les lobes d'oreilles, les caresses dans le cou.
Ah oui, c'est prouvé, c'est pas seulement une histoire. Il y a aussi une chose à considérer, qu'il y a des femmes qui seulement par les fantaisies érotiques, ou par un récit, quelqu'un qui lui chuchote quelque chose d'érotique, la personne juste, avec les mots justes, avec le contexte juste, peut susciter, évoquer, provoquer chez une femme qui est apte, qui est capable, qui a cette potentialité-là, un orgasme uniquement par image, par imagerie, par entendre quelque chose, par s'imaginer. Et ça, c'est prouvé par des études qui ont montré, par exemple, que toutes les réponses qu'on peut mesurer pendant l'orgasme, la dilatation pupillaire, la transpiration et d'autres, la fréquence cardiovasculaire, etc., cardiaque, augmentent de la même manière qu'avec d'autres au type d'orgasme. Donc, vous voyez,
il y a c'est le cerveau. Là, vous démontrez là que c'est vraiment le cerveau, l'orgasme, l'organe sexuel primaire, quoi.
J'aime beaucoup votre lapsus. Je pense qu'il est très juste. Ne le coupez pas. Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire que tous ces stimuli sensoriels sont véhiculés vers le cerveau et que c'est lui qui va interpréter et transformer tout ça dans une réponse liée au plaisir et à la sexualité.
Mais quand même, tous les points là que vous venez de nous décrire sont plutôt des points qui sont très innervés dans le corps. Si je prends, le genou ou mon tibia, c'est peut-être plus difficile, il y a moins de nerfs. Ou est-ce qu'il y a un lien entre quantité de terminaisons nerveuses et érogénéité de ces zones?
C'est une question très intéressante. Attention aux genoux. On ne sait jamais. Ça peut l'être. Il est intéressant deux choses à considérer. Il existe des études qui ont montré, par exemple, que chez des femmes qui ont une lésion médulaire, donc qui n'ont pas...
Médulaire, ça veut dire
de la moelle épinière, hein, certaines stimulations qui étaient faites en laboratoire aux États-Unis provoquent l'orgasme, alors que il ne serait pas possible. Encore une fois, ça montre que le cerveau joue un rôle d'anticipation, de préparation, d'intégration des expériences plus complexes qu'uniquement celles qui sont sensorielles. D'autre côté, il y a des personnes qui ont des lésions neurologiques qui apparaissent de manière brutale, etc. Et chez ces personnes, chez lesquelles, par exemple, certaines zones érogènes ont une sensibilité altérée, des autres zones deviennent érogènes. Donc, il y a une sorte de plasticité qui s'est faite neuronale au niveau érotique et qui transforme des autres zones plus neutres comme en étant érotiques. Et après, il y a des études intéressantes pour montrer que le cerveau est le directeur d'orchestre de tout ce phénomène, qu'il y a des personnes qui ont des orgasmes spontanés, des femmes qui avaient des orgasmes uniquement en conduisant une voiture et d'autres en se brossant les dents. Comment ça se fait? Et ça reste très mystérieux et socialement, c'est invivable.
Oui, effectivement, on imagine que des orgasmes qui se déclenchent un peu n'importe quand, ça doit pas être très évident à vivre. Mais quoi qu'il en soit, ça montre quand même qu'on peut avoir un orgasme finalement indépendamment d'une stimulation des organes génitaux. Et ça, c'était votre, je le rappelle, hein, votre question initiale, Bastien.
Exactement, visiblement c'est possible. Maintenant, alors du coup, nouvelle question, peut-on apprendre à avoir un orgasme sans stimulation des organes génitaux? C'est l'un des principes justement de l'orgasme tantrique, on y vient, que nous définit Francesco Bianchi de Micheli.
L'idée, c'est que on cherche pas la stimulation directe des organes sexuels et des zones soi-disant érogènes, mais on essaye à travers la communion des corps et la stimulation sensorielle de tout le corps de trouver une sorte d'excitation qui croît sans cesse en évitant de manière paradoxale au maximum d'avoir un orgasme pour pouvoir aller beaucoup plus loin de l'excitation. Ainsi faisant, on peut avoir des réactions globales qu'on n'aurait pas si l'orgasme survient. Ceci, disons, du point de vue très théorique, je pense a tout à fait son sens. Parce que si je pense ce qui a été étudié ou ce que nous avons étudié dans le cerveau, ça nous montre bien que plus l'excitation augmente et elle est intense, plus le phénomène de l'orgasme est fort. Donc, si on arrive à freiner l'orgasme, qui a aussi une fonction d'arrêter l'excitation, n'oublions pas, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, je peux m'imaginer que des explications neurobiologiques peuvent se faire. Et aussi, du point de vue philosophique, je trouve que c'est un concept très intéressant et même beau de ne pas vivre la sexualité uniquement comme but unique du plaisir immédiat, mais quelque chose qui est beaucoup plus à la fois spirituel, mais beaucoup plus à la recherche d'un inconnu que nous avons et dont l'orgasme est un exemple de l'énigme que nous portons, l'énigme de la sexualité. Mais beaucoup de choses, on peut les apprendre, les améliorer, les faire mourir, hein, avec, dans le sens maturation.
Ah, et mûrir.
Mûrir.
C'est pas mourir.
C'est un accent tessinois. mûrir. Et avec cette connaissance de soi, on peut découvrir des choses qu'on ne s'imagine pas. Donc, on passe de quelque chose de très mécanique, comme j'entends malheureusement parfois, même plus que parfois, souvent, lié à la connotation de l'orgasme, à quelque chose d'une complexité qu'on s'imagine peut-être même pas.
Vous avez utilisé le mot mourir au lieu de mûrir, ou vous l'avez prononcé mourir au lieu de mûrir. On peut mourir d'un orgasme?
Oui. c'est pas une mauvaise idée, non? Si on faut choisir, c'est la meilleure manière, peut-être. Oui, on peut mourir, mais c'est très, très, très rare. Et on peut surtout vivre.
Oui, j'ai sûr, effectivement, oui, regardez ça. Mais c'est vrai que mourir d'un orgasme, ça doit être pas mal comme mort, que cet orgasme, d'ailleurs, soit tantrique ou pas.
Je suis sûr que ça vous plairait, Stéphane.
Oui, ça me permet... Pas tout de suite, ouais, si on peut encore attendre un petit moment, ça m'arrangerait.
Pourquoi pas. Ouais. Non, alors, pour revenir à l'orgasme tantrique, quels sont les processus, finalement, qui sont mis en action dans ce type d'orgasme? La réponse de Serge Wünsch.
Ce sont des apprentissages qui vont permettre de mieux contrôler certaines activités, certaines réactions physiologiques. Alors, par exemple, on va apprendre à mieux contrôler les mouvements du bassin ou contrôler la respiration. On va apprendre à mieux contrôler certaines réactions physiologiques, hein, comme contrôler l'éjaculation, en apprenant la contraction des muscles pelviens ou en maîtrisant la mobilité et l'immobilité durant le coït. Ou alors, on va apprendre à maîtriser certains états mentaux, comme par exemple apprendre à focaliser son attention sur les sensations corporelles, focaliser l'attention sur la création d'images mentales qui sont stimulantes, sexuellement stimulantes, ou alors on va apprendre à contrôler l'état affectif, on va apprendre à améliorer la relation au partenaire, par exemple par des techniques comme le contact visuel. Alors maintenant, évidemment, tout n'est pas possible. Hein. Certains apprentissages ne sont sans doute pas possibles. Certains apprentissages vont être plus longs à réaliser que d'autres. Et puis là encore, on ne sait pas si toutes les personnes peuvent arriver à maîtriser toutes ces techniques. On va sans doute observer quelque chose qui est similaire au développement de toutes les autres capacités physiques. Alors l'exemple que tout le monde va bien comprendre, c'est l'activité sportive. Par exemple, tout le monde peut faire des activités sportives et tout le monde peut améliorer ses capacités physiques. Mais on sait qu'il y a certaines personnes qui ont des prédispositions génétiques ou physiologiques, ce qui va leur permettre eh bien, d'exceller dans certaines disciplines, alors que dans d'autres, ils seront moins bons. Et en fait, hein, ce qu'on observe, c'est que tout le monde n'est pas égaux d'un point de vue des capacités physiologiques et corporelles.
Voilà, ça c'était donc Serge Wünsch, docteur en neurosciences comportementales, et puis on a effectivement aussi longuement entendu Francesco Bianchi de Micheli, médecin adjoint au département de gynécologie obstétrique, spécialiste en sexologie et médecine sexuelle aux hôpitaux universitaires de Genève, donc pour cette question de l'orgasme, et notamment l'orgasme tantrique. Voilà, je crois qu'en gros, il n'y a plus qu'à essayer.
Oui, alors c'est pas facile, hein, d'après ce que
vous avez essayé, vous.
J'ai pas essayé, je suis trop impatient, parce qu'il faut s'entraîner pendant de longs mois par des caresses et des choses comme ça, où il faut se retenir, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de stimuli sexuels sur les parties génitales.
Il faut faire monter cette excitation petit à petit avec un partenaire tout par le même, j'imagine.
Chacun fait ce qu'il veut.
Ah non, okay. Je pensais que c'était vraiment un truc à deux. Comme ça,
je pense que c'est comme ça que ça peut fonctionner. Ouais. Il faut que ça soit très fusionnel. Et il faut beaucoup de patience. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup de patience. Et je crois que je n'ai pas cette patience. Tant que je n'ai pas essayé, non, pas encore.
Mais attention.
Mais il paraît que c'est deux à trois fois plus fort comme orgasme qu'un orgasme classique un peu précipité, si j'ose dire. Revenez avec nous, Stéphane.
Non, ça donne envie, c'est clair. Mais effectivement, il faut investir un peu de temps.
Faut investir un petit peu de temps et je n'ai pas ce temps, je dois travailler.
C'est cela. Et paf, orgasme tantrique. Merci beaucoup au sujet réalisé donc par Bastien Confino.
CQFD sur la première.